17h30, vous écoutez Radio Campus Paris et vous retrouvez tout de suite l'émission Petite Consultation entre amis.
Petite Consultation entre amis, l'émission santé complètement déjantée de Radio Campus Paris.
Bienvenue à toi, cher patient, dans le cabinet de consultation un tout petit peu déjanté de Radio Campus Paris, dans lequel nous disséquerons l'actualité. On parlera cette semaine des bienfaits de dormir nu. On parlera également des gamma GT, d'avoir un œil de lynx. Docteur Julie, vous répondrez à ce Liette qui passe plus de 5 semaines sans se laver. C'est le pire du forum internet. Et on finira par les temps attendus. Bref, de salle d'attente à vos stéthoscopes, la consultation peut commencer.
Docteur, paraît que vous êtes docteur, parce que malade, paraît que je suis malade.
Ça y est, on fait en direct sur le plateau de Radio Campus Paris avec une belle brochette. Ah, je dis pas une belle brochette aussi que, hein, pas comme la semaine dernière, aussi belle que nombreuses. Que
tout
nombreuses, dirons-nous. Bonsoir, docteur Marion.
Bonsoir.
Comment allez-vous?
Ça va pas mal aujourd'hui.
Ouais. Ça va pas mal. Notre médecin tête de bois. Pour une fois, ça va.
Oui, pour tout une fait. Fois, ça va. Profitez-en, j'ai envie de vous dire.
À vos casques et à la voix chaude et suave de Radio Campus Paris. Bonsoir, docteur Julie.
Bonsoir.
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 Bonsoir à vos côtés, le docteur Guillaume, salut.
Salut, bonsoir.
Notre matinalier qu'on a réussi à débaucher. Vous écoutez également Guillaume
partout.
Sur Radio Campus Paris, la matinale
partout.
À 19h.
La matinale à 19h surtout. Oui.
Et une invitée, docteur Lulu, salut.
Salut, docteur Lulu,
qui interviendra sur la fin de l'émission. Allez, avant tout ça, on se fait un petit tour de l'actu santé.
C'est l'une des infos de la semaine, docteur Loïc, on va pouvoir prédire la sortie du coma.
Eh oui, docteur Marion, grâce à l'imagerie cérébrale. En tout cas, c'est ce que disent les travaux d'une équipe de l'INSERM, l'Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale, travaux qui ont été publiés la semaine dernière dans la revue Neurology. En effet, en étudiant par IRM, je sens que ça rit sur mon accent anglais. Neurology. En effet, en étudiant par IRM, le cerveau d'une trentaine de patients plongés dans le coma suite à un traumatisme crânien ou à un arrêt cardiaque, cette étude a montré que le degré de communication entre deux zones cérébrales permet de prédire quels individus vont récupérer leur conscience dans les mois qui suivent l'accident. C'est plutôt futé, non ? Alors, ce que vous entendez, ce n'est pas le bruit de votre vieille Clio au bord de la rupture, ce n'est pas non plus pour vous rendre complètement sourd et augmenter le nombre de consultations chez nos confrères ORL. Ce que vous entendez, tout simplement, c'est le bruit que fait un IRM. L'IRM, c'est l'acronyme d'imagerie à résonance médiatique, qui est une technique d'imagerie médicale qui permet d'obtenir des vues en 2D ou 3D de l'intérieur du corps. L'IRM est principalement dédié à l'imagerie du cerveau, de la moelle épinière, des muscles, du cœur et des tumeurs. Par contre, contrairement au scanner, l'IRM ne permet pas de visualiser correctement des tissus durs. Revenons maintenant un peu au coma. On le rappelle, le coma concerne chaque année des dizaines de milliers de personnes en France et il peut résulter de nombreuses causes dont les plus fréquentes sont le manque d'oxygénation cérébrale, notamment après un arrêt cardiaque, également le traumatisme crânien, l'accident vasculaire cérébral et en particulier l'accident vasculaire hémorragique. Cet état transitoire dure généralement quelques semaines. Et le devenir des patients est très variable. Certains malheureusement meurent, d'autres au contraire se réveillent en quelques jours ou quelques semaines. Cette étude, qui fait donc appel à de nombreuses techniques, permet aussi d'élucider peu à peu les mécanismes de la conscience à l'échelle neuronale. Ainsi sait-on désormais qu'il n'y a pas un siège unique de la conscience, mais il s'agit plutôt d'un espace de travail global, une sorte de conversation entre différentes parties du cerveau. L'étude a donc comparé l'activité cérébrale de 27 personnes dans le coma, 14 à la suite d'un traumatisme crânien, 13 après un arrêt cardiaque, grâce à une IRM fonctionnelle. Bon, pour faire simple, parce que là je sens que je vous ai tous perdus, les résultats sont très encourageants pour l'instant, et notamment si cela se confirme, on pourrait par la suite tenter de stimuler ces espaces de connexion chez le patient, et on pourrait ainsi prédire plutôt l'évolution de ces malades et répondre aux questions des familles. Bref, une belle avancée dans le monde formidable de la neurologie.
Merci docteur Loïc, mais j'ai une question. Êtes-vous fiché par votre pharmacien ?
Alors ça c'est une bonne question docteur Marion. Je vous avoue que je ne sais pas si je fais partie de cette proportion de Français qui disposent d'un dossier pharmaceutique sans même qu'on leur ait demandé leur avis. En effet, revenons un peu en arrière, nous sommes en 2007 et c'est la création du dossier pharmaceutique. L'idée est simple, elle est de recenser dans un dossier informatique tous les médicaments délivrés au cours des 4 derniers mois, qu'ils soient prescrits par le médecin ou conseillés par le pharmacien. Ce dossier peut être consultable par la totalité des pharmacies en France. Autrement dit, quand vous allez dans une pharmacie et que vous disposez d'un dossier pharmaceutique, le pharmacien retrouve l'ensemble des médicaments que vous avez achetés dans n'importe quelle pharmacie au cours des 4 derniers mois, un peu pire que le KGB, j'ai envie de dire.
Vos papiers, prête. Pas pire.
Alors d'un point de vue médical, c'est plutôt malin, cela évite de vous délivrer des médicaments ayant des interactions avec ceux que vous prenez déjà. Par contre, en théorie, le dossier pharmaceutique ne peut être créé sans le consentement express du patient. Et sur le terrain, il s'avère souvent que le dossier pharmaceutique est créé sans ce fameux consentement. Alors attention, ne nous méprenons pas, le dossier pharmaceutique peut être utile, mais moi j'ai toujours tendance à bien aimer être informé quand je suis pisté. En gros, pour savoir si vous avez un dossier, il suffit d'aller dans une pharmacie avec votre petite carte vitale et de poser tout simplement la question. Vous pourrez alors demander la suppression de votre dossier et une attestation de clôture vous sera même fournie. Libre à vous par la suite de vous faire fliquer ou pas par l'ensemble des pharmaciens de France.
Merci docteur Loïc. Après avoir dit pharmacie en l'espace d'une minute, au moins 50 fois.
50 fois, mais parce qu'on aime aussi les pharmaciens.
Voilà,
et on aime le dossier pharmaceutique.
Apprécie.
Exactement. On salue nos confrères pharmaciens.
Tout à fait. Et donc la dernière info de cette semaine, c'est l'arrivée du paquet de cigarettes neutres.
Effectivement, l'Assemblée a approuvé de justesse mercredi l'instauration du paquet de cigarettes neutres à partir de mai 2016. Le texte prévoit l'instauration de paquets de cigarettes ayant tous la même forme, la même taille et la même couleur et la même typographie sans aucun logo. Le nom de la marque continuera toutefois d'apparaître en petit sur les paquets. Et quand on revient sur la mesure, elle n'a été adoptée que grâce au soutien de 50 députés socialistes et 6 écologistes qui ont mis en avant son effet dissuasif sur les jeunes et notamment les jeunes femmes.
Le paquet neutre donne moins envie de fumer aux jeunes, il est moins sexy, il augmente la perception de dangerosité.
A plaider, je sais pas du tout s'il parle comme ça, le rapporteur socialiste Gérard Sabouin. Voilà, une petite...
Le paquet neutre est moche, il alerte mais il dit la vérité,
affirme elle, la députée socialiste de Gironde, Michèle Delaunay, tout en dénonçant
les pressions des lobbies qui marchent plus fortement à l'approche des élections.
Alors je sais pas du tout si Michèle Delaunay parle également comme ça, qu'elle nous excuse par avance si l'imitation ne lui plaît pas. Presque 80 000 morts du tabac par an, c'est plus de 200 morts par jour, alors que dans tous les autres pays européens, la consommation de tabac baisse, elle augmente en France, a rappelé notre ministre de la Santé Marisol Touraine. Bref.
Le tabac, c'est tabou, on en viendra tous à bout. Le tabac, c'est tabou, on en viendra tous à bout.
Voilà en tout cas une mesure qu'on ne peut que saluer de notre côté. Eh oui, la bonne santé, c'est quand on entend votre voix, docteur Guillaume.
Oh, merci, bonsoir.
Cette semaine, vous nous parlez des bienfaits de dormir nu.
Eh oui, c'est l'astuce santé bonheur, qui concerne les hommes. Il faut laisser tomber votre pyjama et dormir nu pour une meilleure santé. Donc, je vous explique un peu le concept. En fait, selon une étude récente, porter un caleçon plutôt qu'un slip ou un boxeur le jour et dormir nu la nuit améliorerait la qualité du sperme. Donc je vous explique, tout le monde a l'air passionné.
Ah mais complètement.
Sperme,
j'aime beaucoup cette chronique.
Alors avis aux papas potentiels qui nous écoutent ce soir, j'en suis sûr qu'il y en a plein, il y en a peut-être même qui sont papas et qui ne le savent pas bien sûr. Alors la paternité commence dans le pantalon, et oui plus précisément dans les sous-vêtements. Afin d'optimiser leur capacité à se reproduire, ces messieurs, docteur Loïc, ça vous concerne aussi.
Ah mais je prends des notes.
Porter des caleçons le jour et dormir nu la nuit. Donc cette étude, publiée dans la revue Science Alert, mon anglais est bien meilleur que celui de Dr. Loïc, nous le noterons.
Tout ça se paiera.
Voilà. Les hommes qui portent des caleçons pendant la journée et dorment nus voient l'ADN de leur sperme significativement moins endommagé. J'ai du mal aujourd'hui. Alors contrairement à ceux qui portent des sous-vêtements serrés, de jour comme de nuit, le type de sous-vêtements porté pendant la journée et au lit est associé à la qualité du sperme, nous explique Catherine Sapra qui a dirigé l'étude. Elle a dû
Oui, du coup, plaisir, ça doit être pas mal cette étude de dire.
Bien. Ça fait plaisir, Catherine. Alors, trop de chaleur de slip, trop de chaleur dans le slip tue le spermatozoïde. Et oui, c'est ça en fait. Pour parvenir à cette conclusion, les auteurs de l'étude ont suivi 500 hommes pendant une année. Ils ont observé leur choix de sous-vêtements et la qualité de leur sperme. Et les chercheurs en ont tiré la conclusion suivante. Les hommes qui dorment nus et font usage de caleçons pendant la journée ont 25% de fragmentation d'ADN, c'est-à-dire la rupture est... rupture et de lésions liées à l'appareil génétique du spermatozoïde, hein, si on veut faire compliqué, en moins par rapport aux autres. Donc en fait, les scientifiques expliquent cette segmentation par l'exposition à la chaleur des sous-vêtements serrés sur les testicules. La température des testicules augmente à cause de l'exposition de la chaleur due au port des sous-vêtements serrés. Et oui, parce que les testicules préfèrent être à la fraîche. Et oui, c'est important de le souligner. Donc optez donc au plus large le jour et rien du tout la nuit, car si les testicules sont à l'extérieur du corps, c'est justement pour être plus au frais. Les spermatozoïdes ne survivraient pas par 37 degrés.
Moi, je commence à me déshabiller, hein, du coup. Moi, pour les auditeurs qui ont l'image, on continue l'émission.
Surtout avec ce froid-là, ils risquent pas de mourir. Hein. Alors, donc, avec ces études, les chercheurs espèrent sensibiliser les hommes, et donc Dr Loïc, sur le choix de leurs sous-vêtements s'ils souhaitent préserver leur capacité reproductrice. Alors, les scientifiques veulent également observer si les partenaires féminines de ces hommes, respectant les recommandations, tombent enceintes plus rapidement. Pourquoi pas ? Tant qu'à faire, on se fait plaisir, on continue l'étude, va savoir.
Ça, elle a l'air sympa en tout cas.
Oui, ils ont
salut, je m'appelle Catherine, veux-tu venir dormir nue et me mettre enceinte ? Ben, c'est pour une étude. Ben, non, c'est pour une étude.
C'est dingue le nombre de voix différentes qu'on a dans cette émission. Alors, en attendant, les papas éventuels qui nous écoutent ou les hommes qui veulent simplement s'occuper de leur qualité de sperme, Dr Loïc, je vous regarde, peuvent tester la méthode afin de protéger leur appareil de procréation. Dr Loïc, est-ce que vous dormez nu ?
En tout cas, s'il y a des gens qui sont intéressés pour que je participe à l'étude, www.radiocampusparis.org, hein, contactez-nous directement.
Là, on recherche plus docteur.
Oui, ou des docteurs Marion. Bah, écoutez, on va faire des
Julie,
essais.
C'est juste votre tour maintenant.
Ouais, exactement. Juste après l'émission, on se fait des. Bon, on a qu'à refaire l'étude.
Pourquoi pas ?
Je pense qu'on
tout
a assez.
Ouais, quelle idée.
En tout cas, docteur Marion, vous êtes partante. Hein.
Quoi de neuf, docteur Marion ?
Alors quoi de neuf, docteur Marion ? Des journées mondiales.
Tout à fait, des journées mondiales.
Une journée. Une grosse journée mondiale.
Une grosse journée mondiale, effectivement, parce que si vous continuez à faire des études sur la qualité du spermatozoïde, il va falloir quand même penser à vous protéger. Et oui, puisque la semaine prochaine, le 1er décembre, c'est donc la journée mondiale de lutte contre le sida. Très important. Donc, c'est l'Organisation mondiale de la santé qui avait choisi la date du 1er décembre 1988 comme journée mondiale du sida. Et la même année, en fait, l'Assemblée générale des Nations unies avait exprimé sa vive préoccupation par rapport à cette pandémie et donc avait réinsisté sur l'importance et l'existence de cette manifestation. Aujourd'hui, juste pour donner un chiffre, effectivement, plus de 33 millions de personnes vivent avec le VIH, le sida, dans le monde.
Alors, quels sont les objectifs en 2015 de cette journée mondiale du sida ?
Alors,
de lutte contre le sida.
Tout à fait, c'est la lutte contre le sida, on n'est pas pour le sida.
Oui,
hein.
Oui.
Merci, docteur.
On fait une journée pour le sida, ah bah c'est pas mal hein, du coup.
C'est ça, une contre-journée. En fait, à l'occasion de la journée en 2014, l'OMS s'était fixé comme objectif ambitieux de combler l'écart en matière de prévention et de traitement. Et on poursuit en 2015 avec l'intervention de Michel Sidibé, donc c'est le directeur exécutif d'ONU Sida, qui rappelle en fait en 2015 que... je ne ferai pas la voix, nous pourrons mettre fin à l'épidémie du sida en permettant aux adolescentes et aux femmes, aux jeunes femmes, d'avoir accès à l'éducation et à des services de prise en charge du VIH et de la santé sexuelle et reproductive appropriés. Et il énumère par exemple aussi...
Vous voulez que je vous fasse l'énumération avec la voix du professeur Sidibé ?
Allez.
En permettant aux populations clés, comme les personnes qui consomment des drogues injectables et les personnes transgenres, d'avoir pleinement accès à des services de santé dispensés dans le respect de la dignité, et en permettant à chaque enfant de naître sans être porteur du VIH, et enfin en permettant à ses enfants et à leur mère non seulement de survivre, mais de s'épanouir.
Merci, merci de me suis déstabilisé par cette voix. J'ai l'impression que Monsieur Sidibé est avec nous.
Mais oui, un peu.
En tout cas, si vous souhaitez le retrouver et retrouver des informations plus techniques par rapport effectivement au virus du VIH, etc., vous retrouverez des informations sur le site de l'INPES, donc c'est www.inpes.sante.fr, ou encore le site justement d'ONU Sida, qui est unaids.org, puisque c'est en anglais.
Exactement. Et au niveau des actions, alors qu'est-ce qu'on peut faire concrètement pour cette journée mondiale de lutte contre le sida?
Alors pour cette journée mondiale, bon bah voilà, comme toutes les années, ce qui est important c'est aussi de participer à la recherche et au traitement en faisant des dons. Donc vous avez le site de SIDAction qui organise une grande collecte où vous avez beaucoup d'informations et de possibilités de participation. Et puis vous aurez en fait toute la journée du 1er décembre les associations comme SIDA Info Service, Solidarité SIDA, AIDS, etc. qui organiseront en fait des événements partout en France, et vous retrouvez bien sûr le détail de ces actions sur leur site internet respectif.
Un grand merci docteur Marion, on écoute tout de suite notre première page de musique, on écoute Rollercoaster Baby de Mild Eye Club. Écoutez toujours Radio Campus Paris, c'est une très bonne idée, 93.9, et on retrouve tout de suite eh bien, notre piqûre de rappel.
Maintenant, la suite de nos informations.
Tout aujourd'hui, jeunesse de France.
Mes chers compatriotes,
nous avons fait une perfusion continue des artères coronaires.
Et on écoute Jeunesse de France, une voix qui n'a rien à envier à celle de Malraux. C'est celle profonde et caverneuse de notre docteur Léo. Et cette semaine, eh bien, vous allez nous parler du jour où quelqu'un qui m'a dit que le travail, c'est la santé.
Et oui, et aujourd'hui, chronique un peu particulière parce qu'il n'y a pas vraiment de date à ce proverbe qu'on connaît tous et qu'on entend souvent sur le ton de la reproche quand on a envie de se la couler douce. Alors, il est vrai que j'aurais pu prendre comme date le jour de sortie du tube d'Henri Salvador, le travail, c'est la santé. Mais étant pris d'une certaine forme d'oisiveté, je n'ai pas retrouvé la date de sortie de son 45 tours, si ce n'est l'année 1965. Mais parce que, comme le disait Henri Salvador justement,
le travail, c'est la santé. Rien faire, c'est la conserver.
Ah, ça n'a pas pris une ride, hein. Ça n'a pas pris une ride. Mais revenons un peu sur l'actualité qui est en partie rythmée par les volontés de réforme du code du travail, les chiffres déprimants sur le nombre de chômeurs, la discussion perpétuelle sur les 35 heures et le travail sur le dimanche. Du coup, de fait de cette actualité, je me suis dit qu'il fallait peut-être un peu s'interroger sur les liens compliqués qu'entretiennent le travail et la santé. Le travail, c'est la santé. On imagine bien un patron face à ses employés un lundi matin leur lancer ce proverbe alors qu'ils sont tranquillement postés près de la machine à café. Alors vraiment, est-ce qu'on se sent mieux quand on travaille ? Pour répondre, un petit détour étymologique s'impose. Travail vient de l'ancien français travail, donc le même terme, utilisé au XIIe siècle pour désigner la tourmente, la souffrance. Donc ça commence bien. Et plus on remonte le temps, plus ça se corse. Le terme de travail de l'ancien français est lui-même un dérivé du latin tripalium, soit un instrument de torture à trois poutres. Donc si l'on traduit, on obtient donc la torture, c'est la santé, ce qui n'est pas des plus plaisants ni des plus rassurants pour notre santé.
Effectivement, vous ne nous faites pas vraiment rêver là, du coup. Oui, ça fait mal un peu là.
Ça fait mal, ouais. On nous aurait menti. Ce qui n'est pas très rassurant non plus, c'est les statistiques du Bureau international du travail, BIT, qui affirme que toutes les 15 secondes dans le monde, une personne au travail meurt d'un accident ou d'une maladie liée à son emploi. Et puis finalement, on a en droit de se demander pourquoi. Pourquoi travaille-t-on quand on est petit? On veut devenir astronaute, pompier ou footballeur, mais on finit par, d'une manière ou d'une autre, être soumis au bon vouloir d'un patron, à écrire des milliers de mails, des concept notes, rédiger des propals, remplir un tableau Excel à SAP.
On sent le vécu, hein, docteur Léois.
La petite expérience qui ressort. Hein. Et donc, rien de bien productif, rien de bien constructif et encore moins de créatif. On sent un peu la frustration quand même, c'est vrai. Hein. Donc voilà. Alors oui, il paraît quand même que certains chanceux se réalisent dans leur travail, mais il faudra déjà faire part un peu, la part du fantasme, pardon, dans cette affaire et déterminer si les dites personnes s'épanouissent vraiment en se fatiguant les yeux sur des PowerPoint alors qu'il est déjà 21h ou si elles ne représentent pas plutôt la quintessence du salarié heureux de se sacrifier pour profiter de jours de vacances où il est exténué. Après tout, on a quand même envie de les croire, mais peut-être faudrait-il plutôt, au lieu de travailler plus pour gagner plus, travailler mieux pour vivre mieux. Alors restez tranquille, profitez bien de votre week-end et surtout, ne pensez pas à lundi.
Merci docteur Léo, et en vous écoutant on a envie de rester en week-end éternel. Voilà. Et on va retrouver le mot du médecin, et le mot du médecin c'est gamma GT cette semaine.
Docteur, paraît que vous êtes docteur, parce que malade paraît que je suis malade.
Alors docteur Marion, vous avez fait des recherches comme d'habitude intenses sur la littérature. Vous êtes le Alain Ray de Radio Campus Paris. Et donc aujourd'hui vous nous parlez de gamma GT.
Tout à fait, gamma GT. Et oui, aujourd'hui donc on fait un peu une entorse à la règle et on parle, oh là là, du dernier jeu vidéo de l'année qui fera fureur à Noël.
Ça parle un peu bagnole quoi.
Tout à fait. C'est pour ça. Tous les fans de jeux de course sur écran, c'est le moment de se ruer dans les rayons des grandes enseignes pour aller trouver ce nouveau jeu gamma GT avant la rupture de stock. Une définition d'image hors du commun, des effets spéciaux.
Je vous arrête tout de suite sur la blague, c'est très drôle, mais en fait vous êtes médecin, on revient, les gamma GT c'est quoi concrètement?
Oh merde, je trouve ça tellement marrant. Bon bref, les gamma GT, je vous épargne le nom scientifique.
On fait les voitures quand même pour votre chronique.
Merci. Je vous épargne le nom scientifique détaillé parce qu'imprononçable par quiconque d'être humain, bref, en tout cas les gamma GT sont des enzymes qu'on retrouve dans de nombreux organes comme le rein et les intestins, mais plus particulièrement dans le foie. Le dosage sanguin des gamma GT permet en fait d'évaluer cette activité hépatique.
C'est bien, en tout cas on a le son et quasiment l'image.
On va se mettre à filmer les émissions.
Allez, on revient. Résultats d'une prise de sang.
Voilà, les résultats d'une prise de sang, qu'ils soient trop élevés ou trop bas par rapport à la norme, ne sont jamais suffisants par contre pour pouvoir poser un diagnostic sur cette problématique de gamma GT. Seul le médecin qui vous aura prescrit la prise de sang pourra évoquer un diagnostic après une confrontation de ces résultats avec un examen clinique, un interrogatoire et les résultats d'éventuels autres examens.
Alors justement concrètement, quelles peuvent être les causes de cette variation du taux de gamma GT?
Alors la plupart du temps, vous entendez parler de gamma GT lié à l'alcoolisme. Et oui, vous avez sûrement des amis qui vous ont dit « mon taux de gamma GT », voilà, on entend Julie derrière qui a déjà perdu en fait. Voilà.
Qui doit avoir un taux de gamma GT peut-être un peu plus élevé que la normale.
Non, pas du tout, absolument pas.
Et
je reprendrai 3 kir, on rappelle la consommation d'alcool.
Et dangereuse pour la santé. Tout à fait. Donc, en effet, l'alcoolisme chronique est une cause fréquente d'augmentation du taux des gamma GT. Mais il est important de rappeler qu'une augmentation du taux de gamma GT n'est pas toujours liée à un alcoolisme chronique. Je vous laisse méditer. Pour autant, il existe d'autres causes telles que certaines maladies qui peuvent modifier en fait l'activité des gamma GT, parmi lesquelles on retrouve les atteintes hépatiques type cirrhose, cancer du foie, diabète, l'hyperthyroïdie, l'obésité ou encore l'insuffisance cardiaque. Voilà, sinon ça peut être aussi des médicaments qui créent cette variation de gamma GT, comme les antidépresseurs, les contraceptifs, les anticonvulsivants, hypnotiques et autres hormones stéroïdes.
Le grand classique, c'est le paracétamol, par exemple, qui modifie effectivement, qui augmente les gamma GT, par exemple.
Voilà, merci docteur Louis pour cet apport. C'est très important.
C'est ça.
C'est ça, c'est que vous prenez trop de paracétamol, docteur Julie. C'est pour ça que vous avez un foie en bois, en pierre.
Alors, le conseil, en tout cas, qu'on peut vous donner si vous considérez que les Gamma GT, c'est un bon titre de jeu vidéo, mais que vous êtes plutôt inquiet pour votre taux de Gamma GT, c'est bien évidemment d'abord d'en parler à votre médecin qui vous prescrira, si nécessaire, une prise de sang. Et si, comme le docteur Julie, vous avez peur d'aller faire cette prise de sang, on vous propose de créer un événement sur notre page Facebook et d'y aller tous ensemble, un de ces quatre. Pour ça, likez notre page, petite consultation entre amis, et on s'organise.
C'est très moche. Merci, docteur Marion. Et on a très peu de temps pour enchaîner avec le forum internet. Eh bien, on n'a pas de...
Oui, il n'y a pas de jingle. On n'a pas de jingle,
c'est pas grave, docteur Julie.
Quand je fais pipi, c'est plus jaune que d'habitude.
Alors comme toutes les semaines, vous êtes allé fouiner sur les forums internet et vous avez trouvé la perle de la semaine. C'est Soleillette.
Soleillette
qui ne se lève plus.
Alors je vous lis le message de Soleillette. Bonjour, depuis que je suis rentrée...
Genre Soleillette, elle parle comme ça. Bonjour.
Qu'est-ce qu'on en sait ?
On a vraiment un problème de voix ici.
Bonjour, depuis que je suis rentrée dans la vie active, je ne me lave plus. Quelquefois, je suis en contact avec les gens, mais cela me passe au-dessus et je ne me suis jamais maquillée pour mon travail. Le matin, je me lève, je bois mon petit déjeuner, je m'habille, je me lave juste la figure, je me peigne. Même quand je suis en congé, dans la rue, je m'en fous. Je prends une douche par semaine, mais je suis déjà allée jusqu'à 5 semaines sans me laver. Au lycée, j'étais plus coquette. Est-ce que c'est dangereux ?
Bon alors, en fait, la question de Soleillette, c'est est-ce vraiment nécessaire de se laver tous les jours, docteur Julie ?
Exactement. Alors, ce n'est absolument pas une obligation, plutôt un acte de confort et d'hygiène. Mais ne pas se laver tous les jours n'est pas pour autant un manque d'hygiène. Sur le plan microbien, faire sa toilette plusieurs fois par semaine, deux fois minimum, suffit à préserver des infections. Nous sommes dans une société occidentale moderne, plutôt bien protégée contre les microbes. Après, le manque d'hygiène est plus gênant sur le plan social.
Bon alors, je retourne la question, se laver trop peut-il être dangereux pour la peau ?
Alors, cette question n'a plus vraiment lieu d'être aujourd'hui. Avant, on utilisait des produits trop détergents qui abîmaient la peau. Nous possédons un film hydrolipidique sur la peau, un mélange d'eau et de corps gras, isolant et protecteur. Si on le décape, on peut esquinter notre peau.
Donc en fait, ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que les produits nettoyants sont donc plus adaptés aujourd'hui à notre peau.
Ils sont en tout cas beaucoup plus contrôlés et beaucoup moins agressifs pour le derme. Il existe également des agents saprophytes à la surface de la peau qui nous protègent des diverses infections. Avec une hygiène excessive, ils pourraient eux aussi diminuer. Des nettoyants dits « surgras » ont donc été conçus pour renforcer les défenses de la peau.
Et alors, est-ce que malgré tout, il y a des personnes qui doivent se laver obligatoirement tous les jours ?
Alors oui, quand il existe une pathologie de la peau, il est recommandé de faire sa toilette quotidiennement avec des produits spécifiques. Les personnes qui sont en surpoids, par exemple, doivent être davantage vigilantes. Il faut veiller à bien sécher les plis de la peau. Enfin, les personnes souffrant d'eczéma doivent impérativement utiliser un produit surgras pendant leur douche.
Un grand merci, docteur Julie. On n'hésitera pas à penser à vous quand on se lave.
Dorénavant.
Ça fait plaisir. Allez, il nous reste 3 minutes pour les tant attendus brefs de salle d'attente. Alors, à vos micros, docteur Lulu, vous pouvez nous rejoindre.
Enfin,
qu'est-ce qu'on a trouvé dans le cœur d'un Argentin ?
Dans le cœur.
Hein. Mm-hmm. Dans le vrai cœur, hein,
oui,
je veux dire,
voilà,
la cavité cardiaque. Non, pas du tout, absolument. Mais elle est bête.
L'amour.
Non, mais pas du tout. Il y a eu une opération.
Pièce.
Il y a une opération, et suite à une chirurgie cardiaque, on a trouvé.
Une carte
non, pas
bleue.
Une pièce, non. Une
un
carte
poil.
Bleue.
Un poil.
Non, absolument pas. Pas un poil. Un poil, non.
Un ongle.
Alors, c'est quelque chose qui on n'est pas
censé. Est-ce que c'est un objet ?
Alors, non, c'est pas. Alors, oui, docteur Étienne, enfin, Étienne nous rejoint, notre réalisateur. Non, alors, oui, c'est un objet. C'est un objet qu'on n'est pas censé manger, mais qui peut nous aider à manger.
Une fourchette.
Non.
Un cure-dent ?
Un cure-dent, oui, exactement. Putain, bonne réponse, coaching réalisation. Un cure-dent qui avait été.
Et,
alors, bah, ça nous aide un peu à piquer. Vous mangez jamais des olives, vous ?
Avec les doigts.
Du coup, voilà. Donc, c'est un Argentin qui avait avalé effectivement un cure-dent et qui était retiré. Il avait des infections évidemment cardiaques et c'est comme ça qu'il.
Un cure-dent.
Et ben ça. Alors là, les études. Alors, il y avait quand on fait un peu des recherches, hein, il y avait deux articles en 1972 au Japon et il y a cinq ans en Chine, deux cas semblables qui avaient été répertoriés dans des revues scientifiques. Allez, on a 30 secondes. Volvo teste une technologie pour les accidents, pour éviter les accidents avec qui ?
Les chèvres.
Non, pas avec les chèvres. Alors c'est oui, ce sont des animaux.
Un
oui,
ce
sont des animaux.
Un animal.
Non,
les
alors allez, je vous aide.
Les vaches, les dauphins.
Les chats.
Non,
pas les chats, c'est les pires.
Ah non, c'est pas les. Non,
ah,
non,
les
non.
Biches,
Australie.
Hein.
Alors c'est pour
ah,
les voitures.
Kangourou,
oui,
kangourou.
Le kangourou. Un truc que je ne savais pas, kangourou. Vous savez à quelle vitesse va un kangourou?
Oui, à 130 km/h.
Non, ouais, 130 et genre
80 km/h.
Non, 60, ouais, pas loin de 60 km/h. Le kangourou, donc le constructeur automobile suédois, travaille effectivement sur une nouvelle technologie pour éviter les collisions sur les kangourous, eh bien, avec les kangourous sur la route. Voilà, ouais. Eh bien, il nous reste 30 secondes.
Encore
juste pour vous dire.
On, ben non, mais, 30 secondes.
Ah ben, on avait 30 secondes sur les brèves de salle d'attente. Là, il nous reste 30 secondes avant de rendre l'antenne.
Oh,
ouais, c'est terrible. Allez, rappelons juste que nous sommes rediffusés. Enfin, vous pouvez nous retrouver, pardon, en podcast 17h30, 18h tous les samedis à la technique à la réalisation Étienne. Et on vous embrasse et on dit à la semaine prochaine. Bisous.
Bisous.
Salut.
Bisous.
Il est 18h sur Radio Campus Paris.